blanc et les versets
du message, il est important que vous ayez cette feuille. Il est important, si vous n'avez pas la feuille à côté de vous, sur votre chaise, cherchez une de ces feuilles, parce que je vous rappelle que dans cette série que nous avons commencé sur le livre de Proverbes, nous faisons un peu autrement. Nous n'étudions pas un passage que vous pouvez garder sous les yeux, mais nous regardons une foule de proverbes qui se relatent à un sujet donné. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est la colère. Et nous allons prendre le temps d'essayer de comprendre ce que la sagesse de Dieu nous dit sur ce sujet qui nous concerne tous, je pense bien. Qui ne s'est pas mis en colère ici? Là, je suis fâché avec elle d'avoir fait ça. Mais donc... ma femme rigole bien parce que nous sommes tous mis en colère là où nous ne devions pas. En fait, la colère est très souvent mentionnée dans la Bible. Savez-vous que la colère est mentionnée plus que toute autre émotion dans la Bible? 515 fois dans la Bible, il est question de colère. Alors que la deuxième place qui revient... Ah, la crainte n'apparaît que 368 fois. Donc la colère est une émotion humaine qui est un peu omniprésente et qui a de grands enjeux. La colère, c'est la raison la plus fréquente pour laquelle les Français et les autres consultent les psychologues. La colère engendre des dépressions, plein de problèmes, sème la pagaille dans les relations personnelles. Et nous avons besoin de comprendre la colère et comment faire face à ma colère, à notre colère. Ne vous dites pas que vous êtes en dehors de notre moment aujourd'hui parce que vous ne vous emportez pas. Vous ne vous emballez pas, parce que la colère se manifeste de deux manières. Il y a ceux qui mettent tout en dehors et qui s'emportent, et il y a ceux qui internalisent la colère, qui ne parlent pas fort, mais qui prennent tout dedans et qui ont d'autres manières d'exprimer cette colère qui sont autant destructrices dans un sens. Ok, on commence avec cette question, qu'est-ce que la colère? Alors, tout simplement, la colère, c'est quoi? La colère, c'est une émotion qui, par laquelle nous désirons détruire quelque chose. C'est pas difficile à comprendre. Lorsque vous êtes en colère, vous avez un fort désir que quelque chose ne soit pas. C'est pour cela que Proverbe 19, 12, et là vous l'avez sur votre feuille, dit « La fureur du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. » Lorsqu'on pense au lion qui rugit, on pense à la destruction imminente. Et la colère, c'est une émotion de celui qui désire détruire. La colère, deuxièmement, nous demandons qu'est-ce que la colère? La colère est une émotion que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dotés de la capacité de nous fâcher pour des raisons saintes et utiles. Parfois, il faut vouloir, il faut désirer détruire. Parce qu'il y a des choses qui valent la peine d'être détruites dans ce monde. Jésus s'est mis en colère et a chassé les vendeurs du temple, n'est-ce pas? Une sainte colère qui voulait détruire la marchande, le fait de marchander dans le temple de Dieu. L'épître aux Éphésiens dit ceci, mettez-vous en colère, mais ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Donc la Bible distingue entre la colère et le péché. Vous pouvez être fâché sans péché, mais pour nous, les hommes pécheurs, il est très rare que nous arrivions à gérer la colère sans qu'elle bascule dans une colère injuste. Nous arrivons à la deuxième question. Pour quel but la colère existe-t-elle? J'ai déjà donné un peu l'idée, mais la colère dans sa bonne forme, ta colère dans sa bonne forme, si tu t'es fâché, c'est pour que tu sois poussé à dire « Il faut que ça s'arrête !» Il faut que ça s'arrête. La colère, quand tu l'as dans sa bonne forme, te donne de l'énergie pour faire quelque chose au sujet de quelque chose qui ne doit pas continuer. Martin Luther, petite parenthèse, a dit « Je n'ai presque rien accompli dans la vie d'important, sauf quand j'étais en colère. » La colère donne beaucoup d'énergie, si cette énergie est canalisée de la bonne manière. Mais vous pouvez bien comprendre que si votre colère est dirigée vers le mauvais but, cette colère est coupable. La colère doit être dirigée contre ce qui est mauvais, contre le mal, contre ce qui ne devrait pas être. Mais parfois, notre colère, examinez-vous, est dirigée non pas contre le mal, mais contre celui qui m'empêche de faire le mal. Voilà un homme orgueilleux qui est en colère parce qu'en public, quelqu'un a dit quelque chose qui a exposé une de ses faiblesses. Il est fâché. Pourquoi? Contre le mal? Non, contre le fait qu'il ne peut pas continuer à faire penser aux autres qu'il est presque parfait. Ou bien, voilà la personne qui est impliquée dans un comportement tissé des mensonges, des fraudes, et il est attrapé. Il se fâche contre celui qui l'a pris en flagrant délit, mais il n'est pas fâché contre le mal. Il est fâché parce qu'il ne peut pas continuer son mal. Et je dirais qu'en général, le monde est rempli de colère pécheresse. Parce que j'entends souvent, comme Pierre m'a rappelé dans la semaine, des gens avec le sentiment un peu de Camus lorsqu'il dit « Si Dieu existe, il est inexcusable ». Les gens sont fâchés avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient un monde où on peut faire le mal, vivre comme on veut, vivre la vie qu'on est en train de vivre, sans Dieu, sans moralité, et vivre ainsi confortablement et de manière prospère. Mais dans ce monde, qu'est-ce qui arrive à une race qui essaie de vivre de cette manière? Le jugement de Dieu, des maladies, des guerres, des catastrophes. Nous vivons dans un monde où Dieu ne permet pas qu'on soit confortable et prospère en faisant le mal. Lisez avec moi le verset que vous avez sous le point 2, Proverbe 19, 3. La folie d'un homme pervertit sa voix, ensuite il se met en colère contre le Seigneur. Voilà justement ce que je viens de dire. Les hommes qui ont une voix pervertie, et puisqu'ils n'arrivent pas dans ce monde que Dieu gère à prospérer dans le mal, ils se fâchent contre le Dieu qui fait que ce n'est pas facile de vivre dans le péché. Donc, nous terminons ce point en nous rappelant que le but de la colère, quand tu es en colère, doit être uniquement d'arrêter, de solutionner quelque chose qui est un tort, un mal. Troisième point. Quelle est la puissance destructive d'une colère injuste ou mal gérée? Alors là, nous allons lire quelques versets et il est important pour nous de prendre le temps de réfléchir parce que si nous avons un problème avec la colère, il est important pour nous de mesurer la portée de ce que nous faisons. D'abord, Proverbe 20, 27, 3 et 4. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'irritation du stupide pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui tiendra devant la jalousie? La colère cause beaucoup de problèmes. Premièrement, la colère te pousse à beaucoup d'autres actions de pensée et d'émotions mauvaises. Ça commence avec la colère, mais la colère te mène à beaucoup d'autres, on va dire, sottises. Lisez avec moi Proverbes 14, 16 et 17. Le sage craint le mal et s'en détourne, le sot s'emporte plein d'assurance. Qui est prompt à la colère fait des sottises. La colère mène à plein de bêtises. Et l'homme astucieux se rend odieux. Pensez à quelqu'un qui est coléreux, colérique, coléreux. Pensez à toutes les erreurs, toutes les bêtises, toutes les injustices, toutes les relations brisées, toutes les réactions irréfléchies. La colère nous mène dans plein de voies qui sont mauvaises. Deuxièmement, la colère cause des disputes et des conflits parmi les gens qui auraient autrement vécu en harmonie. Proverbe 15, 18. Un homme furieux excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Ou bien, un homme coléreux provoque les disputes, un homme furieux fait beaucoup d'offenses. Troisièmement, la colère peut mener à la violence et même à la perte de vie. Rappelez-vous que tout meurtre commence où? Dans le cœur où habite la colère. Personne ne tue sans avoir été d'abord en colère dans son cœur. Nous lisons dans le Proverbe 22, un roi en colère ressemble à un lion qui rugit, celui qui augmente cette colère met sa vie en danger. C'est-à-dire, comme le roi a la capacité de faire comme il veut, ce qui n'est pas ton cas, le roi, sa colère, se manifeste souvent en mettant les gens à mort à cause de sa colère. Et nous voyons dans l'histoire, dans l'Antiquité, que c'était souvent le cas, n'est-ce pas? Ces rois, ces tyrans qui, pour peu de choses, tuent. La colère ruine des mariages, ou au moins les abîme. Créer de la distance entre parents et enfants, enfants et parents. Si vous êtes enfant, si vous êtes parent, si vous êtes conjoint. Proverbe 21, 19. Le père parle à son fils dans les livres de Proverbes et dit: Mieux vaut vivre dans un coin désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Parce que la colère dans un conjoint ou l'autre, rend la vie insupportable. La colère est contagieuse. Est-ce que vous le saviez? Avez-vous rencontré une personne avec un grand problème de colère? Avez-vous rencontré son père ou sa mère? Souvent, on voit qu'il y a la colère dans la famille. Pourquoi? Proverbe 22. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues pas à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. La colère, de manière bizarre, mystérieuse, est souvent contagieuse. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu, ne règle pas, n'amène pas dans une situation injuste la justice. La colère peut motiver quelqu'un à agir de manière à amener la justice, mais la colère elle-même n'accomplit pas la justice. Je lis dans le livre de Jacques, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Quand vous utilisez votre colère pour punir, ou venger, ou faire peur, afin de manipuler les gens et les faire faire comme vous voulez, vous ne créez pas une situation qui sera bien. Vous pouvez changer le comportement de quelqu'un parce qu'il a peur de vous, mais vous ne créez pas une justice qui vous unit et qui va amener cette personne à vraiment vouloir suivre vos conseils. Une fois, un homme, un parent, un père m'a dit qu'il croyait qu'il était nécessaire de s'emporter contre les enfants et que tout père devait faire ainsi. Parce qu'il m'a dit, il faut parfois mettre les enfants à leur place. Et un des enfants de ce monsieur a des séquelles très graves de cette colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Même si la colère peut nous motiver à faire ce qui est nécessaire. Nous arrivons au quatrième point. Combien est-il important de bien gérer ta colère? Quelle est l'importance même de ce message aujourd'hui? Proverbe 16. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Ça, c'est incroyable. Mais la Bible nous dit cela. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa stupidité. Dans les affaires, dans les familles, dans les voisinages, parfois quelqu'un devient presque héroïque simplement parce qu'il a pu maîtriser sa colère et donc a agi d'une manière à apaiser, à régler, à ne pas enflammer une situation. Un homme furieux excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Proverbe 23, c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des querelles, tout imbécile se déchaîne. Et finalement, une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Un verset très intéressant qui nous montre que si nous n'arrivons pas à gérer notre colère, nous sommes comme une ville sans fortification. C'est-à-dire beaucoup de choses peuvent avoir un accès direct et sans problème dans notre vie, dans nos émotions, de manière à nous terrasser, à nous amener dans une voie que nous ne devrions pas prendre. Nous sommes sans défense si nous sommes coléreux. Il faut peu de choses pour nous mettre en dehors de nous-mêmes. Voilà, nous voyons que c'est extrêmement important de comprendre comment gérer sa colère. Cinquièmement, comment est-ce que la colère fonctionne? Première chose, si vous retenez une chose de ce message, c'est ceci. Toute colère provient d'un désir frustré. Comprenez bien. Toute colère provient d'un désir que vous aviez déjà avant que vous ne vous fâchiez. Et ce désir a été frustré. Je vais vous donner quelques exemples, mais c'est la clé pour savoir comment gérer la colère. Premier exemple. Voilà un bébé par terre qui ne peut pas encore ramper ou marcher et qui ne peut pas atteindre un jouet. Caprice. Un désir, je veux ce jouet, frustré, résultat, colère. Deuxièmement, un jeune veut à tout prix sortir avec ses copains ce week-end. Et les parents disent... Tu viendras avec nous, on va rendre visite à la grand-mère. Colère. Pourquoi? Désir frustré. Troisièmement, un patron veut que ses employés fassent un travail avec excellence et soin. Et ils font tout le contraire. Résultat, patron en colère. Pourquoi ? Désir légitime. Désir frustré. Ensuite, vous êtes au feu. Presque, vous y arrivez et il est vert. Et vous êtes pressé. Et il change avant que vous ne puissiez pâcher. Vous êtes très pressé. Et maintenant, vous êtes en colère. Pourquoi ? Un désir d'arriver vite qui est frustré. Ensuite, voilà les gens d'une race opprimée. Depuis des générations. Et dans cette race, même en tant que peuple, ça développe une personnalité collective de colère. Pourquoi ? Un désir légitime d'être traité comme les autres, mais un désir frustré. Ensuite, voilà la fille qui veut qu'on la remarque plus que les autres. Et dans cette soirée, on ne la remarque pas beaucoup. Elle ne sait pas, elle ne le sait même pas. On voit qu'elle est un peu silencieuse cette soirée-là, mais en fait, elle est en colère. Pourquoi désir frustré? Le chrétien qui désire que le nom de Christ et le commandement de Dieu ne soient pas traînés dans la boue dans sa société. Et parfois, il y a des chrétiens qui sont tout le temps un peu en colère. Mal géré. Donc, vous pouvez voir que nos colères viennent parfois d'un désir légitime qui est frustré, ou bien parfois d'un désir légitime mais démesuré. Est-ce que vous vous rappelez de Marthe et Marie? Marthe qui préparait le repas, Marie l'aidait, elle quitte la table pour aller entendre Jésus, et Marthe se fâche, elle se précipite dans la salle et elle dit au Seigneur, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne... dis pas à ma sœur de m'aider. » C'est un désir légitime de vouloir que sa sœur l'aide, plutôt de vouloir que le repas soit bien. Mais apparemment, Marie a quitté parce que le repas était bien, mais Marthe voulait que ce soit parfait. Elle avait un désir un peu perfectionniste, un peu « il faut que tout soit exactement comme ça ». Et lorsque Marie a dit, mais ça suffit, allons écouter le Seigneur, Marthe, avec un désir démesuré, un désir qui avait une place trop grande, la colère et le résultat. Ou bien, ça peut être un désir légitime et mesuré, mais vous n'arrivez pas à attendre que le Seigneur vous donne la réponse à ce désir en son temps et de sa manière. Quelles sont les marques d'une colère mal gérée? Comment pouvez-vous savoir si votre colère est mal gérée? Premièrement, elle est impulsive, c'est-à-dire rapidement ça part. Regardez avec moi le proverbe 12-16. L'insensé laisse voir à l'instant son irritation, mais celui qui cache un outrage est prudent. À l'instant, boum, c'est parti. C'est une colère mal gérée. Deuxième passage à ce sujet. Le sage craint le mal et s'en détourne. Le sot s'emporte. Deuxièmement, non seulement impulsif, mais disproportionné. Nous lisons le Proverbe 20, verset 2. Un roi en colère ressemble à un lion qui rugit. Vous avez l'image? C'est une colère qui va au-delà des mesures. Et parfois, on voit une maman qui s'emporte dans le magasin parce que son enfant a fait casser un bocal, mais c'est vraiment une colère comme s'il avait tué quelqu'un. Les enfants sont comme ça. Mais parfois, notre colère est mal gérée parce qu'elle est disproportionnée. Et troisièmement, une colère est mal gérée, on le voit souvent parce qu'elle est répétitive, c'est-à-dire la personne se met souvent en colère. Proverbe 19:19, celui que la fureur emporte doit en payer le prix. Si tu l'exemptes, tu l'encourages à recommencer. C'est-à-dire, une autre version dit, si tu l'exemptes, tu auras à le faire encore. Le passage est un peu difficile à traduire, mais l'idée c'est que il va falloir faire ça encore parce que c'est quelqu'un qui se met en colère souvent. Voilà. Ok, maintenant nous arrivons à la partie, disons, de comment pouvons-nous changer? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la sagesse de Dieu nous dit vis-à-vis de la manière de gérer la colère? Il faut agir, réagir lorsque vous avez cette émotion naît en vous et vous savez que vous êtes en colère parce que cette personne a dit cette chose ou fait cette chose ou parce que tel truc est arrivé. Vous êtes en train de bricoler et vous cassez une pièce importante, n'est-ce pas? Et là, vous sentez que la colère est là. Donc, il faut agir, réagir bien à trois niveaux. Au niveau de votre cœur, à l'intérieur, au niveau de vos paroles et au niveau de vos actions. Premièrement, et principalement au niveau du cœur. Il faut tenir en bride la force de tes émotions au lieu de les exprimer sans relâche. Regardez bien le Proverbe 17:27. Celui qui ménage ses discours possède la connaissance et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Ou bien Proverbe 29, les sensés étalent tous ses sentiments mais le sage se retient de montrer les siens. Aujourd'hui, les gens pensent dans certains secteurs que pour être authentique, je dois exprimer tout ce qui est au-dedans de moi. Si je suis en colère, je dois m'emporter, c'est psychologiquement bien. Parce que si je ne l'exprime pas et c'est vrai au-dedans, alors je suis hypocrite. Parce que je fais semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Vous avez entendu ça? Moi, je l'ai souvent entendu. Mais la Bible dit exactement le contraire. La Bible dit que tout ce qui est en vous n'est pas vous. Il y a un être qui s'appelle le péché. Et refuser que le péché s'exprime, c'est être le vrai vous. C'est être authentiquement humain. Péché, ce n'est pas être humain. C'est être tordu. Et lorsque je retiens ma colère, je dis, je vais être ce que Dieu m'a fait pour être, et non pas le contraire. Donc ça c'est la première chose que, je ne sais pas si c'est dans votre éthique, ça devrait l'être, mais on n'étale pas tout ce qui est à l'intérieur. On retient. Deuxièmement, il faut d'abord, nous sommes toujours en train de parler au sujet du fait de réagir bien au niveau du cœur. La deuxième partie, c'est il faut d'abord réfléchir plutôt que réagir. Proverbe 15, le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. Médite. Et pour vous aider à méditer, lorsque vous êtes fâché, je vous donne 5 questions. Pourquoi suis-je en colère? Quelle en est la vraie cause? Voilà, je me fasse quand je bricole et je casse cette pièce. Et j'étais presque là, j'ai presque fini le travail qui m'a pris 2 heures samedi après-midi. J'ai cassé un truc et je veux prononcer un mot qui commence avec M, n'est-ce pas? Et donc, quelle est la cause? Ce n'est pas la pièce qui s'est cassée. C'est le fait que j'ai un désir de contrôler ma situation et cette réparation et que ça se passe dans le temps que moi j'alloue, que moi je veux et que moi je sois un petit Dieu qui domine les circonstances. Mais être un homme qui ne domine pas mes circonstances, être un simple homme qui est au gré de beaucoup de choses dans le monde, parfois on a le désir de ne pas prendre notre place de créature. Et de se dire, mince, ça commence aussi avec un M, mince, vraiment je ne voulais pas recommencer maintenant, mais bon, ça arrive, n'est-ce pas? Ça arrive quand on fait du bricolage, je ne suis pas Dieu. Je croyais l'être pendant longtemps, mais je ne le suis pas. Alors, je vais aller chercher une autre pièce. Donc, pourquoi? Quelle est la vraie cause? Est-ce que je suis... Bon, je continue. Est-ce que je donne au problème sa juste proportion? Parfois, on se fâche contre quelqu'un à cause de... d'un péché dans sa vie, cette personne n'est pas sympa ou quelque chose. Mais on regarde son péché comme une poutre, n'est-ce pas, comme Jésus a dit. Comme une poutre. Comme si c'est gigantesque que quelqu'un ait pu me parler avec un peu de manque de gentillesse. N'est-ce pas? Et on en veut à cette personne tellement pour une seule remarque. Les grandes injustices de la vie valent une grande colère. Mais tout ne vaut pas une grande colère. Troisièmement, est-ce que mon souci suprême concernant ce problème est la gloire de Dieu et le bien des autres? Parfois, notre colère est parce que notre souci premier, c'est notre réputation ou notre confort. Par exemple, est-ce que vous avez vu un parent qui se fâche 10 fois plus contre le mauvais comportement de son enfant quand c'est en public que quand c'est en privé, le même comportement? Pourquoi est-ce que le parent se fâche tellement quand il fait la même chose en public? C'est parce que c'est sa réputation en tant que parent qui est abîmée. N'est-ce pas? Est-ce que mon but, est-ce que la raison pour laquelle je suis fâché, c'est parce que cette chose est mauvaise et il faut que ça s'arrête, ou bien c'est parce que moi j'ai été un peu, je peux être mal vu. Ensuite, est-ce que je fais confiance à Dieu concernant ce problème? Proverbe 20:22. Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel, il te sauvera. Quand cette dame qui travaille dans une société avec plusieurs secrétaires subit jour après jour la mauvaise langue de sa collègue qui semble la cibler particulièrement, et donc il y a une colère juste, un désir juste d'être aimé, d'être traité avec équité. Mais lorsque cette colère devient un désir de vengeance et ronge la vie de cette dame, alors quelque chose ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que cette dame ne fait pas confiance à l'Éternel. Parce que Dieu dit, ne vous vengez pas, à moi la vengeance dit l'Éternel. À un moment donné, Paul a subi de grandes injustices et probablement des violences physiques par un homme qui s'appelle Alexandre. C'était un forgeron. dans une ville où Paul évangélisait. Et Paul dit ceci. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Vous voyez comment ça change complètement la donne. Si je suis confiant et je sais que Dieu va rendre aux hommes leurs injustices commises contre moi, et il le fera beaucoup plus grandement que moi, beaucoup plus fortement que moi, mon cœur s'apaise. Mais lorsque j'oublie Dieu, je pense que je dois même moi-même me venger. Donc une colère mal gérée, parfois, c'est parce que nous oublions que le Seigneur voit ce que je subis. Il voit ce que l'autre fait et il en prendra soin un jour. Est-ce que je veux dans ma colère détruire ou résoudre? Ici, je veux dire, est-ce que ma colère se dirige vers le problème ou la solution? Quand vous êtes en colère, cette énergie doit vous pousser à faire quelque chose pour résoudre un problème et non pas attaquer une personne. S'attaquer au problème et non pas attaquer ou faire mal à la personne. Même si le problème vient d'une personne, je peux m'attaquer au problème de son mauvais comportement sans l'attaquer lui-même. Nous lisons dans le Proverbe 24-22, « Ne dis pas, comme il m'a fait, ainsi je lui ferai, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Donc ça, c'est une colère qui vise la personne, le bonhomme, au lieu de viser le problème que cause la personne. Question suivante, « Est-ce que je me rappelle de la manière dont le Seigneur a répondu à mes offenses contre lui ?» Et ici, nous avons l'évangile qui vient tout changer dans la manière où je gère ma colère. Et c'est le point le plus important. Quand je suis fâché, contre quelqu'un qui a mal agi envers moi, il faut à tout prix que j'agisse à la lumière de l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, que lorsque j'ai très mal agi envers Dieu, au lieu de se venger, il a pris pitié de moi, il m'a aimé tel que j'étais, il m'a pardonné, il a commencé à me changer. Et si, pour des milliards de fautes, de torts contre Dieu, j'ai reçu plutôt le pardon, comment est-ce que je peux ne pas vouloir prolonger cet amour magnifique envers quelqu'un d'autre qui me fait mal? Mais quand j'oublie l'évangile, quand j'oublie que je suis l'objet d'un amour en réponse à mes péchés, mes torts, je n'arriverai jamais à pardonner un autre. C'est le pardon de Dieu envers moi qui me donne la puissance et le désir de pardonner aux autres. C'est ce bien immense que je veux prolonger. Mais il ne faut pas que j'oublie l'évangile. Il ne faut pas oublier qui je suis et qu'est-ce que Dieu m'a fait en Christ. Dernière question, est-ce que je réagis dans la crainte de Dieu? Je suis fâché contre ce collègue, je suis en colère contre ce voisin et vraiment en colère. Et puis je me rappelle, je vis devant les yeux d'un Dieu infiniment saint qui ne tolère pas le péché. Et qui a dit en Matthieu 7 par la bouche de Jésus, « Selon la mesure que vous mesurez aux autres, il vous sera mesuré. » Si vous avez presque aucune miséricorde pour le voisin quand il vous fait mal, Dieu le verra et il sera aussi sévère avec vous. C'est la promesse. Ça nous pousse à vivre dans la crainte de Dieu et à dire, ça ne vaut pas la peine de me venger. Donc, il y a toutes sortes de questions. Et ces questions, vous n'aurez pas le temps, chaque fois que vous êtes tenté d'être fâché, de vous poser cette question. Mais je vous les donne pour que vous soyez des gens qui commencent à connaître votre cœur. comment la colère fonctionne, à vous poser la question, quel désir est frustré en ce moment? Et est-ce que ce désir est démesuré? Donc, si je veux résoudre ma colère, il faut que je baisse le niveau de ce désir. Que je dise, non, je voudrais bien passer au feu vert, mais ce n'est pas nécessaire. Je voudrais acheter cette robe ce week-end, mais je ne vais pas mourir si je ne le fais pas. Il faut que je regarde mon cœur et mes désirs qui soient toujours mesurés et que je puisse les lâcher ou attendre. Donc, rapidement pour finir, il faut agir au bien au niveau de vos paroles. Je ne vais pas vous lire le verset, et au niveau de vos actes. Votre énergie doit être utilisée pour résoudre le problème, soit en passant sur l'offense de quelqu'un. Proverbe 19, 11, l'homme qui a du discernement est lent à la colère, il met son honneur à passer sur une offense. Parfois, vous pouvez faire ça. Et c'est bienfaisant de pouvoir donner du pardon à quelqu'un. Deuxièmement, vous pouvez vaincre un mal par un bien, sans confronter, reprocher la personne. Une personne vous dédaigne, vous traite avec mépris, et la prochaine fois que vous êtes avec cette personne dans une situation, vous allez tout de suite vers elle pour demander comment ça va, pour lui montrer de la gentillesse. Et parfois, on vainc le mal par le bien. Et même l'énergie de votre colère peut vous pousser, avec grâce et amour, d'aller vers elle pour lui faire du bien et détruire son péché en même temps. Détruire son mépris par la bonté. Troisièmement, parfois tu dois confronter la personne concernant son injustice. Avec tact, avec amour, lui en parler. Et ta colère peut te pousser. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Je dois aller lui en parler. En priant pour beaucoup de gentillesse, beaucoup de douceur dans la manière de parler. Écoutez, j'ai besoin de te dire que je me sens vraiment blessé par quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous avez fait. Voilà. Donc, de ces différentes manières, la colère, cette énergie en vous doit vous pousser vers une action qui fait du bien à une personne, peut-être, mais qui détruit le mal qui est source de votre colère. Bien. La Bible dit beaucoup d'autres choses sur la colère, mais nous nous limitons à cela parce que nous voulons surtout comprendre la sagesse du livre des Proverbes. Mais ce qui est important, c'est que au fur et à mesure, par l'Évangile, par la grâce de Dieu, nous pouvons voir nos cœurs changer, nos désirs changer et sanctifier, et nos colères rendues utiles. Nous allons chanter. Au lieu de chanter « Seigneur, ce que je réclame dans le carnet », nous allons le prendre dans le recueil. C'est le 295. 295. « Seigneur, ce que je réclame ». Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie,
il ne peut être ennuyeux.
cet amour. Mille jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les méchants dieux glacés. Ils ne peuvent rien répondre. L'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Je réalise que ce message aurait pu susciter des questions, donc n'hésitez pas de me les poser après, au repas ou à un autre moment. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te confessons tous nos colères, souvent mal gérées et coupables. Nous sommes parfois fâchés parce que nous sommes tout simplement égoïstes, orgueilleux ou immoraux. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes ce changement qu'apporte l'Évangile, où nos désirs se transforment, se dirigent vers toi, où nous pouvons lâcher bien des choses et ne pas nous mettre en colère. Ou même envers des personnes qui nous font du mal, tu nous donnes la grâce de voir que eux aussi ont cet intrus du péché. Et ils sont des gens à pitié et non pas à vouloir détruire. Seigneur, tu sais combien nous sommes loin de tout cela souvent, et nous prions que tu nous façonnes par ta parole, que tu prennes ce qui nous a parlé, ce qui nous a touché en particulier aujourd'hui, et que tu l'imprimes dans notre vie. Nous voulons avant tout te plaire et ressembler à toi. Et nous te le prions au nom de Jésus. Amen.